Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette qui est là pour vous accompagner au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Depuis environ une trentaine d'années, les salles multisensorielles gagnent en popularité auprès notamment de clientèles qui ont des besoins spécifiques, autant des jeunes, des enfants que des personnes âgées. Après 10 ans de travail, le personnel de l'école de la Haute-Ville, ça c'est une école à Grimbay, annonçait le 13 janvier dernier l'inauguration d'une toute nouvelle salle multisensorielle pour répondre aux besoins de leurs élèves qui vivent avec une déficience intellectuelle moyenne et profonde. C'est quoi une salle multisensorielle? On va y répondre en deuxième partie d'émission avec Anne-Marie Ménard, elle qui est directrice de cette école secondaire. En première partie, d'abord, quand il est question de se prendre en main, hein, ça c'est une grande phrase, hein, les défis pour chacun peuvent être différents. Il y en a qui veulent inclure des aliments plus sains, un régime alimentaire plus sain à leur vie. D'autres qui veulent profiter de plus d'activités physiques, bouger plus. D'autres, comme moi, veulent maintenir leur... Parce que, bon, je considère que j'ai déjà de bonnes habitudes de vie, mais être motivé à les conserver, ça, c'est autre chose. C'est un petit peu plus difficile. Le dernier livre de Karine Larose, Je me prends en main tous les outils. Je pense que c'est un véritable guide de santé qui, je le souhaite et je le pense, saura vous inspirer, peu importe votre situation. Bonjour Karine Larose.
Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Ben merci beaucoup pour l'invitation. C'est pas votre premier bouquin, mais celui-ci, je le trouve très très beau, très très esthétique. Il accroche l'œil, les couleurs sont magnifiques, les encadrés. Je pense qu'on aura envie de s'y plonger le nez et d'y rester. Un passage qui m'a particulièrement interpellée. Je pense que c'est la fin du livre, le mot de la fin, qui s'intitule « S'aimer assez pour prendre soin de soi ». Se prendre en main, c'est un engagement important. Prendre soin de soi, bon, je pense que tout au long du livre, vous donnez des pistes, mais à la fin, c'est la base un petit peu, il faut s'aimer. Oui, tout à fait. Puis je suis contente que vous ameniez ce point-là parce que j'ai ce titre-là, j'étais fière de l'avoir trouvé, évidemment, mais ça résume bien, je pense, le guide, le livre en soi. S'aimer assez pour prendre soin de soi. Souvent, les gens vont me dire, ben, j'ai pas le temps pour l'entraînement, j'ai ma famille, j'ai les enfants, je suis pressée pour les soupers, j'aime mieux acheter quelque chose qui est déjà tout fait. Mais à chaque fois qu'on coupe dans ces éléments-là, on coupe sur notre qualité de vie, sur notre santé. Et inévitablement, ça a des répercussions sur notre famille, les enfants, tout ça. Des répercussions qui peuvent être à long terme importantes. T'sais. Quand on voit maman qui prépare les légumes pour le bon souper qu'elle va nous préparer, bien, je pense que ça nous donne, ça nous permet de voir que, OK, c'est possible de bien manger, que ça goûte bon puis que j'intègre des légumes là-dedans. Quand on voit maman qui dit « Attends, tôt, je m'en vais m'entraîner, je reviens dans une demi-heure. » Faut prêcher par l'exemple aussi, mais ça permet aussi de mieux profiter de la vie avec les gens qui sont autour de soi. Donc, faut vraiment pas voir ça comme un geste égoïste que de s'entraîner, que de prendre le temps de faire nos repas. Et ça, je pense que c'est un point important, puis c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ma conclusion « S'aimer assez pour prendre soin de ça », parce que ça, je pense que ça le résume bien, oui, effectivement.
Et vous le dites dans ce passage-là, la santé, c'est un privilège, c'est pas un acquis.
Tout à fait. Et à partir du moment où on réalise que la santé peut être basculée très, très rapidement, la santé fragile, c'est souvent malheureusement quand on est malade, quand on se fracture le bras, quand des fois ça peut être même pire.
Ou qu'un proche est malade et qu'on le constate, les effets, les répercussions.
Sur les autres autour, exactement. Et par contre, ce qui est encourageant, c'est de savoir qu'on exerce un contrôle important sur notre santé. Et on a vu le récent ouvrage de Richard Béliveau, Prévenir le cancer, qui parle d'importance d'intégrer des aliments variés, les légumes, tout ça, c'est pas si compliqué et à quel point l'impact peut être important pour améliorer notre qualité de vie. Donc, c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faut se pencher. Il faut que les gens comprennent que
C'est pas juste un processus à court terme. C'est pas uniquement pour dire, bon, ben finalement, je vais pouvoir mettre mon maillot de bain, puis après ça, je me remettrai à manger ce que je veux. Il faut vraiment que ce soit une démarche consciente d'intégrer les habitudes pour la vie. Et évidemment, dans le livre, ce que je propose, c'est un calendrier d'une durée de 12 semaines. Oui, c'est circonscrit dans le temps. Mais après, je vous donne aussi des pistes pour, OK, comment maintenir vos bonnes habitudes maintenant? Parce qu'il est évident là, que d'intégrer des nouvelles habitudes, c'est bien beau de le dire, là, vous avez juste à faire 30 minutes d'exercice par jour puis manger ça. Encore faut-il le faire. Donc, il faut se donner la chance d'inculquer ces habitudes-là et par la suite, de trouver notre équilibre. Fait que c'est important pour moi d'avoir tout ce volet-là de maintien aussi par la suite pour que ça se fasse de façon réaliste puis que ça reste agréable aussi.
Vous parliez, Karine, de c'est pas juste de pouvoir mettre son maillot de bain, tout ça. En même temps, il y a un passage, et c'est une entraîneure qui disait ça dans le livre et je trouvais ça très, très inspirant. Elle disait, je dis à mes clients, il y a des objectifs qui sont quantifiables et d'autres qui sont qualifiables.
Oui.
Quand c'est quantitatif, c'est OK, je veux perdre 35 livres, mais qualifiable, ça compte aussi de dire je veux mettre ma belle robe cet été ou je veux pouvoir jouer avec les enfants puis pas être essoufflée.
Oui, tout à fait. C'est tellement important. D'ailleurs, d'emblée dans le livre, je commence en demandant aux gens de prendre conscience des objectifs qui se fixent et j'insiste sur le fait que ce ne soit pas uniquement des objectifs quantifiables. Justement, il ne faut pas que ce soit uniquement le chiffre sur la balance qui dicte votre niveau de motivation. Si c'est juste ça, c'est malheureusement voué à l'échec. Il faut vraiment découvrir les plaisirs de s'entraîner et de bien manger dans notre quotidien. Et ça, ça veut peut-être simplement dire, justement, je suis en mesure de monter les marches avec mon enfant dans mes bras sans me sentir essoufflée. C'est souvent des gestes peut-être qui paraissent anodins au quotidien, mais quand on se met à faire de l'exercice, c'est comme si on se rend compte que notre qualité de vie vient soudainement de changer. Puis c'est ce que j'ai remarqué avec les gens qui ont fait les différents défis « Je me prends en main ». Parce que, en fait, chez Nautilus Plus, on a le défi où les gens font le programme Transforme qui est proposé dans le livre.
Oui.
Mais il faut comprendre que toutes ces personnes-là venaient d'abord et avant tout pour perdre du poids. Ils étaient tannés de se voir, ils se sentaient pas, ils avaient pas un bon niveau d'énergie. Et là, ils commençaient évidemment à respecter les consignes qui leur étaient proposées par leur entraîneur, le nutritionniste. Ils se rendaient compte au fil des semaines, je dors tellement mieux, j'ai tellement plus d'énergie, mon humeur a changé. L'humeur, là, c'est incroyable, les effets de l'exercice sur l'humeur, on en parle pas assez souvent, je trouve, au niveau de la dépression aussi. C'est le médicament sans effet secondaire qui va vous procurer vraiment une meilleure humeur. Donc, les effets sont beaucoup plus importants que seulement le tour de taille. Mais encore, il faut accorder une importance au tour de taille, pas simplement pour une question d'esthétique, mais pour une question de santé. Et je reviens à Richard Béliveau, mais dans son livre, il parle de...
Qui signe votre préface, il faut le dire.
Oui, c'est pour ça.
C'est une petite fierté, ça, je pense,
pour vous. Ben oui, tout à fait. Parce que en fait, ce qu'il dit, c'est que l'IMC, selon le Cancer Research Fund, dit que ça doit être entre 21 et 23. C'est pas gros, là, entre 21 et 23. Il faut vraiment être mince. Donc, c'est pas juste esthétique. Oui, tu dis, ben tant mieux, si je vois un petit peu mieux mes épaules, ma taille est un peu plus affinée, c'est sûr que les gens vont aimer ça. Mais on le fait d'abord et avant tout pour la santé, pour prévenir.
Karine, vous travaillez auprès de Nautilus Plus, d'ailleurs, dans ce livre-là, c'est le programme Transforme, là, comme on vient de le mentionner, qui est vraiment mis de l'avant, dont on parle. Des programmes comme ça, il y en a dans tous les autres gyms. Qu'est-ce qui le distingue?
Bien, en fait, il faut comprendre que le programme Transforme est né il y a plusieurs années chez Nautilus Plus. D'autres gyms peuvent prétendre avoir une formule de transformation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, on a des professionnels qui détiennent des formations universitaires. Ils sont accompagnés non seulement d'un entraîneur personnel qui est souvent kinésiologue, mais également d'une nutritionniste. Donc, leurs efforts conjoints vont vraiment permettre d'avoir une perte de poids et donc une transformation qui soit saine. Et surtout, ce qui nous distingue, c'est dans la mise en application de tous les conseils qu'on va faire auprès de notre clientèle. Donc, il faut comprendre que c'est pas un programme qui est bon pour tous. Le programme va être personnalisé, va être adapté et selon d'où on part, bien, on est en mesure d'apporter les ajustements en conséquence. Fait qu'il faut faire attention ce qu'on entend ou ce qu'on prétend nous vendre. C'est important d'être bien entouré, d'être bien outillé et vraiment d'avoir les bons conseils pour nous permettre d'obtenir des résultats durables. Puis, Auparavant, chez Nautilus Plus, il n'y en avait pas de nutritionniste. Maintenant, ça va faire près de 10 ans qu'on les a intégrés parce qu'on croit sincèrement que la portion alimentaire est aussi cruciale que la portion exercice pour obtenir des résultats. Fait que c'est vraiment une combinaison qui est gagnante, finalement.
D'ailleurs, il y a un volet dédié à l'alimentation, oui, la nutrition dans votre livre. Et vous avouez même tricher parfois. c'est la règle du 80-20, c'est ça?
Oui, exactement. Ça, je l'aime bien. Ben, simplement parce que, encore une fois, tu sais, souvent, les gens vont dire, bon, ben, là, je fais une diète, là, je coupe tous les sucres, je bois plus d'alcool, on se met des barrières et là, on se sent frustré, on commence à avoir faim et après une semaine ou deux, là, on regarde sur le chiffre, sur la balance, là, ça change plus autant qu'on voudrait et on abandonne tout puis c'est comme si on se remet dans nos anciennes habitudes et même pire. Donc, le fait de se permettre des petits plaisirs de temps à autre, je pense que c'est ça l'équilibre. Et c'est ça qu'il faut aller chercher dans l'adoption de saines habitudes de vie, c'est de comprendre que oui, ça va demeurer une préoccupation dans le sens que moi, personnellement, je mange bien à tous les jours, je fais un effort. On a au moins 3 fois par jour où on a un choix à faire au niveau de notre alimentation. À quelques fois durant la journée aussi, on peut se dire, OK, là, j'ai l'option de me lever ou pas. Donc, faut simplement saisir ces occasions-là et s'assurer, dans le fond, au moins 80 % du temps, de faire les meilleurs choix possibles. L'autre 20 % de se donner une certaine latitude, mais de savoir s'arrêter. Il faut comprendre que le sac de chips, on est-tu vraiment obligé de passer au travers pour se sentir satisfait? Il y en aura d'autres demain. Fait que prenons-en quelques-uns, on range le sac, puis ce que je dis au début, surtout au niveau de la préparation, c'est aidez-vous au niveau de votre environnement. T'sais, c'est sûr que si vous avez des barres de chocolat qui traînent, des sacs de chips, c'est sûr que c'est pas facile.
C'est dur ça de résister.
Exactement. Fait qu'il faut s'aider un petit peu en faisant le ménage, aussi de s'entourer de gens qui ont les mêmes préoccupations, qui s'entraînent, qui ont un goût de faire des activités puis de manger sainement. C'est sûr que ça va faciliter particulièrement au début.
Mais d'ailleurs, et ça, j'ai trouvé ça assez nouveau comme discours, Karine, et c'est dit dans le livre de bien s'entourer, que parfois nos amis, en ce qui a trait à notre changement, dans nos changements, nos choix qui changent là, en lien avec notre vie, peuvent nous nuire plus que nous aider. Et il est vrai que parfois, on entend ces phrases-là. « Non, mais là, tu t'es entraîné 2 fois cette semaine, tu peux peut-être manquer cette séance-là. » Il faut s'éloigner de ces gens-là?
Bien, en fait, je pense qu'il faut faire un choix conscient et il faut surtout être conscient que ces phrases-là peuvent venir. C'est la raison pour laquelle j'en ai parlé. Les gens qui ont... les participants au défi m'ont parlé que c'était quelque chose qui n'était pas facile. La belle-famille, la belle-mère, même la mère, le conjoint, des fois aussi. « Oh, bien là, on est obligé encore de manger tous ces légumes-là. On peut pas en commander une pizza. » Puis c'est ça qui est difficile. Donc, il faut d'emblée demander à ceux qui nous entourent, ceux qui sont proches de nous. Là, j'ai décidé vraiment de faire des efforts au niveau de mon alimentation. J'ai besoin de ton soutien parce que j'ai de la difficulté. Là. Ça risque d'être difficile pour moi. J'ai vraiment envie que tu m'encourages là-dedans. Et la plupart des gens, si les gens vous aiment vraiment, c'est sûr qu'ils vont vous encourager là-dedans. Mais ceux qui vous disent, bien là, j'ai fait ce gâteau-là pour toi, tu pourrais au moins en prendre une bouchée et qui ne peuvent pas comprendre ou qui ne veulent pas comprendre que vous essayez de vous prendre en main puis ce n'est pas une insulte à leur égard, bien, c'est peut-être mieux d'essayer de les éviter pour un certain moment, surtout quand peut-être la motivation est peut-être plus fragile, particulièrement au début, ou des fois, ça arrive plus, tu sais, après 4 semaines, où là, on est rentré un petit peu plus dans nos habitudes. Fait que c'est d'être conscient que ces commentaires-là peuvent arriver et garder en tête qu'on se choisit en disant non merci pour des aliments ou pour des sorties. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer puis qui est entouré de fumeurs, qui sort tout le temps dehors fumer. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux tenter de laisser aller. Donc, essayer de s'offrir les meilleures conditions possibles, finalement, pour réussir.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans le livre qui sont liés à la préparation, à la préparation à cette transformation-là. Bon, être conscient de notre entourage est un aspect de cette préparation-là. Il y a d'autres choses qu'il faut considérer avant de se lancer dans l'aventure?
Bien, oui, en fait, un aspect important, c'est l'intégration de l'exercice physique. Et souvent, la première excuse pour ne pas faire de l'exercice, c'est le manque de temps.
Oui.
Donc, d'abord et avant tout, il faut être réaliste dans notre contexte personnel au niveau de l'horaire des enfants, du travail. Quel est le temps que je peux mettre à l'entraînement? Je ne demande pas d'essayer d'attendre que le temps se présente. Il faut vraiment mettre à l'agenda les séances d'entraînement. Comme on va faire un rendez-vous chez le dentiste, au garagiste, on respecte ce rendez-vous-là avec soi. Ça, c'est le meilleur truc que je puisse vous donner. Mais à partir du moment où j'établis mon horaire pour ma semaine, bien, après la semaine, peut-être se donner l'attitude ou la souplesse de dire, OK, est-ce que ça a bien fonctionné cette semaine? Est-ce que j'ai senti que j'ai couru après le temps? Bon, là, peut-être le lundi, dans le fond, c'est peut-être que ce serait mieux le lundi matin plutôt que le lundi soir, le mercredi à telle heure. C'est de s'assurer d'avoir une certaine rigidité dans le sens où je dois faire mes 4 séances ou mes 3 séances. Maintenant, je peux jouer sur le temps, je peux jouer sur le moment où je vais les faire, sur la durée des entraînements. Mais chose certaine, il faut que ça fasse partie de ton horaire. Ça devient une priorité. Fait qu'il faut prendre le temps de s'asseoir avec... C'est pas juste avec soi, là, parce que ça implique les gens autour de soi, notre conjoint, nos enfants. Donc, c'est important de s'asseoir en famille et d'en parler. Puis ça va aider justement à ce qu'on parlait tantôt, d'avoir le soutien, de pas sentir qu'on est toujours en train de tirer sur la couverte puis « je suis encore partie, je m'en vais encore m'entraîner ». Faut vraiment sentir qu'on le fait dans un esprit qui est bien accepté par l'entourage immédiat.
Il y a une panoplie de trucs dans le livre, notamment de toujours avoir son sac de sport prêt avec soi au travail. Et aussi, l'autre truc que j'aimais bien, de se dire quand on n'a pas envie, quand on sent qu'on n'a pas le temps, de se dire « j'y vais 10 minutes et on verra ».
Ça, c'est un des trucs qui fonctionne. C'est sûr, là, on s'entend, là, le moment de venir pour l'entraînement, c'est pas le moment qu'on préfère.
Non,
se dit toujours, il me semble faudrait que je nettoie ma maison. On trouve toujours quelque chose
Il
y a toujours quelque chose. Donc, il faut enfiler sans se poser de questions. On enfile nos souliers de course, on enfile notre habit d'entraînement et on se dit, regarde, tu sais quoi? Je ferai pas la demi-heure, je ferai pas l'heure, je vais faire 10 minutes. Et la majorité du temps, vous allez réaliser après 10 minutes, bien, autant qu'il y a, je vais continuer, puis dans le fond, ça me fait du bien. Mais se donner le temps de voir, parce qu'il y a des journées où on sent que notre énergie est plus faible, et vous allez voir, c'est souvent ces journées-là où on trouve de l'énergie pour s'entraîner.
Et notre plaisir.
Et le plaisir de le faire, bien oui, évidemment. Puis c'est pour ça que je dis dans le livre aussi, essayer d'expérimenter différents types d'activités pour découvrir celle qui vous convient le mieux. Puis c'est sûr que je parle de l'importance de la musculation aussi. C'est souvent un aspect qui va être négligé, les activités cardiovasculaires sont très populaires, la course à pied, tout ça. Pourtant, la musculation est hyper importante. Les bénéfices sont nombreux, c'est pour la posture, la densité osseuse, l'équilibre, réduire les problèmes articulaires, les maux de dos. Quand j'ai une structure au niveau de mon programme de musculation, ça aide beaucoup. J'essaie beaucoup de donner des explications aussi dans le livre. Quand on comprend pourquoi on fait quelque chose,
on a envie de le faire.
On a envie de le faire, puis on a envie de l'appliquer.
On y trouve un sens, hein?
Ben oui, tout aussi. À fait. C'est pas juste pour perdre du poids. C'est pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais de la musculation? C'est quoi l'importance d'avoir des muscles sur mon corps? Bien, ça me permet de bouger dans ma vie de tous les jours avec tellement plus de facilité. J'arrive le soir, je me sens bien moins fatiguée. Donc, c'est des répercussions, des bénéfices qui sont vraiment quotidiens.
Des explications et beaucoup d'exemples parce que les participants au programme Transforme ce livre donnent leurs trucs personnels, notamment une jeune femme, ça m'a marquée, je pense, pour son 30e anniversaire, elle a demandé à ses amis de lui faire un gâteau avec des fruits et une journée où on fait des activités. On mange pas en abondance, on boit pas trop non plus, on fait des activités, on est actif. Il y en a, c'est bourré de trucs comme ça. En terminant, Karine Larose, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous inspirent, tous ces participants-là qui se sont engagés dans cette transformation-là?
En fait, je vous dirais, à chaque fois que je vois des transformations, puis ça fait plusieurs années là, que je suis entourée de gens qui se transforment, et ce que je réalise, c'est à quel point les gens n'avaient pas conscience de leur capacité et de leur volonté et de leur... c'est ça, de leur capacité à réussir. Souvent, ils arrivent en me disant « moi, j'ai pas de volonté, je suis pas capable, j'ai jamais été capable ». Et parfois, c'est simplement qu'ils avaient pas la bonne stratégie, la bonne façon de fonctionner. Et quand ils sont bien entourés, quand ils sont bien structurés, ils réalisent qu'ils ont toutes les qualités possibles pour réussir. Fait que je pense qu'il faut vraiment se donner la chance et de le faire de façon saine. Puis c'est la raison pour laquelle j'offre le livre, parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui a accès à un centre d'entraînement Nautilus Plus. Et même ceux qui l'ont, ça va être un outil qui va être complémentaire, qui va vraiment pouvoir vous accompagner là-dedans. Mais je te dirais, moi, ce que je pense qui peut vraiment interpeller les gens, c'est qu'ils réalisent qu'ils sont capables, dans le fond.
Oui, oui. Je me prends en main tous les outils du programme Transform. C'est publié chez Trécaré. Karine Larose, vous êtes kinésiologue, directrice des communications chez Nautilus Plus, auteure, chroniqueuse, et bien d'autres choses. On laissera tous les sites, là, votre site perso, je me prends en main.ca, le site également de Nautilus Plus, là, pour donner vraiment tous les outils aux gens pour aller plus loin. Merci. Et pour leur montrer qu'ils sont capables. Merci, Karine Larose.
Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Anne-Marie Ménard, bonjour.
Bonjour.
Je vous disais tout à l'heure au téléphone, avant qu'on se parle là, que je n'avais jamais entendu parler avant de salles multisensorielles, et pourtant ça existe depuis des années. Là, on parle des années 1970. De votre côté, ça fait 10 ans que vous êtes en processus pour en avoir une, et ça s'est fait le 13 janvier dernier. Ça a ressemblé à quoi pendant ces 10 années-là, le processus pour obtenir la salle multisensorielle?
Beaucoup de passion. C'est avec beaucoup, beaucoup de passion pour qu'un projet dure 10 ans en milieu scolaire comme ça, 10 ans où les gens de l'école ont mis la main à la pâte pour arriver à faire les campagnes de levée de fonds nécessaires pour pouvoir bénéficier de tout le matériel nécessaire. Alors, c'est beaucoup de passion.
Bon, on parle de matériel nécessaire. Il y en a beaucoup dans une salle multisensorielle?
Bien, en fait, on a différents types d'éléments dans la salle multisensorielle. Alors, à la base, quand on entre dans la salle, c'est une salle qui est aussi appelée salle blanche. Mm-hmm. Parce que tous les murs sont blancs. Ils sont tous capitonnés. Donc, c'est tout doublé de blanc. Le plafond aussi est un petit peu plus bas. Alors, ça donne un bel effet cocon, un effet
rassurant,
bien
oui.
Sûr. Et c'est ce qu'on souhaite là pour les personnes qui vont pouvoir y aller. Et là, à l'intérieur de la salle, bien là, on peut utiliser différentes structures. Nous, ici, on a quelques éléments. On parle d'une colonne d'eau qui peut changer de couleur. On parle de fibre optique. On parle d'une chaise hamac. Dans lesquelles les élèves peuvent prendre conscience de leur corps. On parle d'une boule disco et on a un panneau mural interactif et les élèves sont appelés à choisir un petit peu le matériel qu'ils souhaitent utiliser quand ils y entrent.
Dans votre cas, la salle multisensorielle est destinée aux élèves qui vivent avec une déficience intellectuelle moyenne et profonde. Mm-hmm. C'est quoi les bienfaits chez ces jeunes-là?
Mais comme la salle va chercher un élément de relaxation et de stimulation, alors on peut l'utiliser de deux façons. Je vous donne un exemple. Quand les élèves arrivent par le transport scolaire, des fois, ce sont des élèves qui sont facilement surstimulés. Donc, ils arrivent à l'école. Bon, le transport, ça a bien été, mais bon, ils sont dans un état un petit peu moins disponible pour les apprentissages. Alors, on va aller avec eux dans cette salle blanche-là où ils vont pouvoir se relaxer. Alors, ils pourraient décider, parce qu'on leur donne le choix. Quand ils entrent dans la salle, ça nous permet de travailler le choix avec ces élèves-là. Ils vont nous dire ben, qu'ils veulent aller, par exemple, dans la chaise hamac. Alors, on va les installer là. Et là, ils peuvent être là un 5, un 10 minutes et ça permet rapidement de les calmer. Après ça, on peut retourner en classe et vont pouvoir être beaucoup plus disponibles là, pour faire les apprentissages et répondre à leurs besoins à ce moment-là.
Et ils y vont, bien sûr, accompagnés de leur éducatrice ou enseignante.
Oui, oui, tout à fait, en tout temps, soit l'éducatrice, soit les préposés ou soit les enseignantes, dépendamment de ce qu'on recherche. Parce que si on veut aller faire un apprentissage, par exemple, travailler les couleurs avec eux, quand on va au panneau mural, vous savez, il y a des petits boutons de couleurs sur lesquels on doit aller presser si on voit le bouton s'allumer. Et donc, à ce moment-là, c'est un apprentissage. On va travailler l'apprentissage. Alors, on y va vraiment en fonction de l'élève et en fonction de son plan d'intervention, qui sont tous différents.
Oui. Et ils y vont plusieurs fois par jour. Ça ressemble à quoi, l'horaire?
Mais étant donné que j'ai plusieurs élèves, à ce moment-là, on se partage à l'intérieur là, des jours de la semaine. On essaie d'y aller aussi aux besoins de l'élève. Habituellement, ils vont deux fois par semaine là, dans la salle pour que tout le monde puisse avoir accès à cette salle-là. Mais aux besoins, si on en ressent le besoin, si l'élève le demande, bien, on y va. Tout simplement, on répond vraiment à ce qu'il souhaite.
À ses besoins.
Oui.
Les salles multisensorielles, ça gagne en popularité de plus en plus là, dans les 30 dernières années. Je le disais tout à l'heure en introduction, Anne-Marie Ménard. Dans votre cas, c'est quand même particulier. Votre école, c'est une école dite régulière, mais on y a quand même intégré une salle multisensorielle.
Oui, exactement. Ces salles multisensorielles sont souvent dans les écoles dédiées ou les écoles où ils ont une plus grande clientèle. Nous, ici, à la Commission scolaire du Val-des-Serres, on est une école qui reçoit une bonne partie des élèves en déficience intellectuelle moyenne et profonde. Donc, ça nous a permis, là, avec notre projet éducatif, d'avoir des objectifs de tolérance, d'ouverture avec les élèves. Et donc, ces élèves-là sont intégrés dans notre école. Ça nous a permis de créer le projet. C'est très particulier parce que les élèves en déficience profonde qui ont besoin de cette salle-là, maintenant vont rayonner sur les élèves du régulier qui, eux aussi, pourront y avoir accès, bien évidemment.
Et j'imagine que les parents ont été ravis de cette initiative-là.
Tout à fait, tout à fait. Ce projet-là s'est fait d'abord avec la collaboration des parents parce que dans de nombreuses levées de fonds, dans de nombreuses activités, ce sont les parents de ces élèves-là qui sont sollicités, entre autres, quand on parle d'un quilloton ou de spectacle amateur. Alors oui, ce sont les parents des élèves de l'école qui ont été, qui ont mis la main à la pâte et c'est un beau succès dont ils sont fiers parce que les élèves qui ont participé à certains spectacles sont maintenant rendus au cégep.
Oui.
Alors, ils voient la réussite qu'ils ont.
Oui, les retombées positives sur leur école, sur leur ville également. C'est sûr que ça crée un sentiment d'appartenance. Tout ça, Anne-Marie Ménard. En terminant, bon, la salle est dédiée chez vous à des enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle moyenne à profonde. Ça pourrait convenir à d'autres étudiants également, troubles de comportement, j'imagine.
Oui. Oui, on parle des élèves avec des troubles envahissants du développement ou du spectre de l'autisme, des enfants avec de l'anxiété aussi. Mm-hmm. Vous savez, cette semaine, je parlais avec les gens, puis on disait que ça ressemblait un petit peu à un spa. On a l'effet, quand on entre à l'intérieur de la salle, automatiquement, tout le monde baisse le son.
Ah c'est apaisant, là.
C'est très apaisant. Alors, les élèves, avant les sessions d'examen, les élèves du régulier, ceux qui veulent peuvent aller utiliser la salle blanche pour se relaxer avant d'entrer en examen. C'est un très grand bénéfice pour notre école.
Anne-Marie Ménard, vous êtes directrice de cette école secondaire de Grimby, l'école de la Haute-Ville. Eh bien, bravo pour cette belle initiative. Et puis, salut à vous et à votre équipe. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Bon après-midi.
Vous aussi.
Merci, Rémi Hermoso. Nous, on se donne rendez-vous demain. Portez-vous bien. Bye-bye.